C'est vrai, hein, tout au long de la Bible, on voit que Dieu désire être là. Dieu désire être au milieu de son peuple. Dieu désire être présent avec nous. Dieu désire faire alliance avec son peuple. Tout au long de l'histoire de la Bible, on voit que Dieu veut faire une alliance avec son peuple. Une alliance qui a été brisée par notre ancêtre Adam, mais une alliance que Dieu nous permet de renouveler par Jésus-Christ, par ce sang versé à la croix, pour lequel on vient de se souvenir en prenant ce repas du Seigneur. Ce sang tellement précieux qu'on vient de chanter, le seul qui peut sauver notre âme, le sang de Jésus. On va voir ce matin que Jésus est plus qu'une religion. C'est ça le thème de ce message, Jésus plus qu'une religion. Il y a deux semaines, on était à Eisenflou, on avait notre week-end d'église. Peut-être on va faire un tout petit sondage. Qui a participé à ce week-end à Eisenflou? Vous pouvez lever la main. Super, quand même une bonne proportion d'entre nous. Hein. On a vécu des bons moments, c'était super. On a vécu déjà dans un cadre super, super beau. On a vécu des bons moments dans le domaine de la communion fraternelle. On a passé des heures et des heures et des heures à discuter les uns avec les autres. On a passé aussi des temps, on a été enseigné, peut-être on a été secoué de certaines manières, on a été encouragé, on a été mis au défi en tant qu'Église. Suite à ce week-end, on a peut-être de nouvelles idées, on a peut-être de nouveaux désirs pour la vie de notre Église, on a peut-être certains changements en vue. On a envie de progresser, n'est-ce pas, en tant qu'Église. On est prêt à changer. On est prêt à chercher la volonté de Dieu et à la vivre. Suite à ce week-end, on n'est pas en train de dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était faux et c'était n'importe quoi. Pas du tout. Je crois qu'on fait beaucoup de bonnes choses en tant qu'Église. On a beaucoup de bons moments les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit changer pour changer. On doit tout remettre à plat et tout modifier. Ça signifie simplement, je crois, qu'on doit vraiment changer d'état d'esprit. On ne veut pas le changement pour le changement. On veut le changement pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, vous vous souvenez, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, dans notre vision d'Église, ce qu'on veut faire pour la gloire de Dieu et ce que l'Église de Jésus-Christ, au sens large, doit faire pour la gloire de Dieu, c'est trois choses. L'adorer. Nous sommes un peuple d'adorateurs. On veut passer du temps pour adorer notre Dieu. Deuxième chose, on doit s'encourager les uns les autres à grandir en lui. On doit s'édifier mutuellement. On doit prier les uns pour les autres. On doit se conseiller les uns les autres. On doit lire la Bible les uns avec les autres. On doit adorer les uns avec les autres. Et puis troisièmement, la troisième chose qu'on doit faire en tant qu'Église pour adorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu, c'est de transmettre ce message de la Bible, ce message de l'Évangile autour de nous. Parce que nous croyons que Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes sur la terre entendent ce message, qu'ils aient accès à ce message de grâce. Tout ça nous pose des questions. La question qu'on veut se poser ce matin, c'est est-ce qu'on a le droit de changer? Est-ce qu'on a le droit et de quelle manière, dans quelles limites, on peut changer nos manières de faire? À la Servette, on a un petit peu nos habitudes, hein, on a nos traditions, on fait les choses de telle et telle manière, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais on doit sans cesse se poser cette question fondamentale. Est-ce que les choses que nous faisons, est-ce que les choses que nous vivons sont à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on pourrait s'améliorer dans ce désir et dans cette motivation de faire la gloire de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons changer? Et qu'est-ce que nous ne devons jamais changer à ce que nous vivons en tant qu'Église? Croyez-moi, la réponse à cette question est loin d'être aussi simple que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a beaucoup de questions sous-jacentes à cette question. Mais on va, ce matin, donner quelques éléments par rapport à cela. On va voir que Jésus est plus qu'une religion et on va voir que ça nous donne un certain nombre de réponses par rapport à cela. On va lire ensemble un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 18 à 22. Si vous n'avez pas l'habitude de chercher dans une Bible, et si vous avez pris une Bible à l'entrée, je pense que c'est la page 793, donc vous pouvez facilement trouver dans ces Bibles le texte. C'est donc l'Épître aux Hébreux. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez sans autre aller en chercher une là au fond, hein. N'hésitez pas, soyez pas timide. C'est important qu'on ait tous vraiment le texte sous les yeux pendant que je vais le lire. On est donc dans l'Épître aux Hébreux. Levez la main si vous n'avez pas de Bible. Max va vous en amener une. Voilà, super, merci Max. Je vais lire, donc c'est 793, je crois. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 22. Tout le monde a trouvé le texte, je pense. Je vais lire ce passage. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Si vous relisez un petit peu l'Épître aux Hébreux, les deux chapitres précédents, d'ailleurs, au passage, je vous mentionne que quelqu'un de notre église, deux jeunes du groupe de jeunes adultes nous ont préparé une version audio de l'Épître aux Hébreux. Donc si vous aimez écouter plus que lire, dans le mail d'église cette semaine, je vous enverrai cette version audio. Vous verrez, c'est sympa. On a la lecture, on a une petite musique de fond. Et puis ça, si vous êtes plutôt auditif que visuel, ça va peut-être vous aider à lire ou à écouter l'Épître aux Hébreux. Si vous relisez les deux chapitres qui précèdent ce texte, les chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, je résume ces deux chapitres. L'auteur nous dit deux choses. Il nous dit que la religion ancienne, c'est-à-dire la religion juive, était insuffisante pour sauver les hommes. Bien sûr, elle était instituée par Dieu, bien sûr, elle était voulue par Dieu, et bien sûr, elle préparait le peuple de Dieu pour la venue du Messie. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'elle était mauvaise, mais elle était insuffisante pour vraiment sauver les êtres humains. Et la deuxième chose que l'auteur nous dit dans ces deux chapitres, c'est que justement, Jésus est venu apporter plus qu'une religion. Jésus est venu, en fait, comme il nous dit dans ce passage, hein, il est venu inaugurer une route, un passage, un chemin vers la présence de Dieu, pour qu'on puisse être dans la présence même de Dieu. Et ces deux thèmes, de l'insuffisance de cette religion juive, et puis du fait que Jésus est venu apporter plus qu'une religion, ces deux thèmes se retrouvent un petit peu comme concentrés dans ces cinq versets que je viens de lire. La religion ancienne, c'est-à-dire l'ancienne alliance, était insuffisante. Il fallait autre chose. Il fallait une autre religion, en fait, plus qu'une religion. Parce qu'une religion ne suffit pas. C'est quoi une religion ? Une religion, c'est un procédé, un processus qui devrait nous permettre de nous approcher ou d'accéder à Dieu, n'est-ce pas ? Ce que l'auteur nous montre ici, c'est qu'une religion ne suffit pas. Aucun moyen, aucun processus fait par des êtres humains ne permettra jamais à aucun être humain ni de s'approcher, ni d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut plus qu'une religion. Et c'est ce que Jésus a apporté. C'est ce que Jésus a apporté. Il est plus qu'une religion. Ce texte qu'on vient de lire, il met l'accent sur deux choses en particulier qui nous montrent que Jésus est plus qu'une religion, et c'est les deux axes qu'on va voir tout de suite. Premièrement, ce texte montre que Jésus est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice. Un petit peu le parallèle des sacrifices de l'Ancienne Alliance, mais lui, il est le sacrifice parfait. Et la deuxième chose qu'on va voir, sur laquelle l'auteur met l'accent dans ce texte, c'est que Jésus est aussi le prêtre parfait. Il est non seulement le sacrifice parfait, mais il est aussi le prêtre parfait. Premier élément donc, Jésus est le sacrifice parfait. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à offrir d'offrande pour le péché. Je crois que des fois, en tant que chrétien, au XXIe siècle, on prend ça un petit peu à la légère. On se dit, bon, oui, on n'a plus besoin de faire de sacrifice, mais en fait, on n'a jamais fait de sacrifice, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est le fait de faire des sacrifices. Heureusement, Dieu a voulu qu'on ait encore accès aux textes de l'Ancienne Alliance, encore aujourd'hui, qui sont des textes importants, qui nous permettent de comprendre toute l'étendue du sacrifice de Christ. Si vous relisez les chapitres 4 et 5 du livre du Lévitique, vous verrez la description détaillée des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Ces deux chapitres nous montrent en particulier qu'il fallait faire des sacrifices pour le péché. Tout le monde devait faire des sacrifices pour le péché. Les prêtres devaient faire des sacrifices pour le péché. L'assemblée entière, quand le peuple d'Israël faisait un péché communautaire, l'assemblée devait apporter un sacrifice. Les chefs du peuple devaient apporter des sacrifices. Les membres du peuple, finalement, devaient aussi apporter des sacrifices. Les membres du peuple devaient apporter une chèvre ou un agneau. On pouvait faire des sacrifices dans le cas d'un péché involontaire. Dans le cas d'un péché volontaire, on ne pouvait plus rien faire. Hein. Dans le cas d'un péché involontaire, on pouvait offrir un sacrifice à l'Éternel. Et puis c'était toute une histoire. Hein. L'homme qui avait péché devait mettre sa main sur la tête de l'animal et devait lui-même l'égorger. C'était traumatisant. Hein. Il y avait quelque chose de vraiment terrible dans cette habitude d'offrir des sacrifices. Ensuite, c'était toute une histoire de boucherie, vous pouvez lire le texte, hein, donc on devait retirer la graisse et toutes ces choses-là, on devait brûler la graisse qu'on ne pouvait pas garder. Et puis après, tout est détaillé dans ces chapitres du livre du Lévitique. Le peuple juif devait vivre vraiment sous une pression énorme. Ils avaient une conscience aiguë de la gravité du péché. Vous imaginez que chaque péché que vous faisiez, vous deviez amener un sacrifice au temple à Jérusalem. Je ne sais pas si on arrive à imaginer ça aujourd'hui. Toute une vie comme ça. Sacrifice, 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 sacrifice. Le péché est toujours là. Il nous colle à la peau. On pêche toute sa vie durant. On n'avait aucune chance de s'en sortir. Et il y avait un côté un petit peu désespérant dans ce système sacrificiel de l'Ancien Testament. Sans cesse, on revenait à la même chose. Sans cesse, on devait offrir des sacrifices. Et tout à coup, rupture. Jésus arrive. Lui, il présente une et une seule offrande, un seul sacrifice. Il offre son propre corps, sa propre vie, pour le pardon des péchés, une fois pour toutes. Jésus est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice suffisant, une fois pour toutes. Vous imaginez un petit peu pour ces gens qui vivaient au premier siècle, comme par exemple l'auteur ou les lecteurs de l'Épître aux Hébreux, quelle révélation de penser que Jésus est ce sacrifice parfait. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. C'est terminé. On est entré dans une nouvelle alliance. Jésus a offert ce sacrifice parfait, plus besoin d'offrir de sacrifices pour le péché. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça, c'est prodigieux aussi. Au verset 19, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Là aussi, de nouveau, quel changement! Quel était le problème avec le péché? Pourquoi est-ce que les Juifs dans l'Ancienne Alliance faisaient tous ces sacrifices? Quel était le problème? Le problème, c'est que d'un côté, on a un Dieu qui est saint, un Dieu qui est parfait. Et de l'autre côté, on a l'homme pécheur, fondamentalement pécheur. Et le problème est le suivant, c'est que la sainteté et le péché sont deux choses totalement incompatibles, totalement irréconciliables. C'est un petit peu comme de l'eau et de l'huile. Vous ne pouvez pas les mélanger. Les deux se trouvent toujours séparés. Il y a comme un mur infranchissable entre ces deux états. Par conséquent, il y a un mur infranchissable entre Dieu et nous. C'est ça qui est grave avec le péché. Le péché n'est pas juste grave parce que c'est le péché, mais c'est grave parce que ça casse la relation. Ça crée une inimitié, un fossé entre Dieu et nous. Et le sanctuaire, dont il est question dans le verset 19, le lieu de la présence de Dieu, c'est ça le sanctuaire, hein, c'est le lieu de la présence de Dieu, devient inaccessible. C'était particulièrement visible dans l'Ancienne Alliance, puisque le lieu de la présence de Dieu, c'était ce lieu très saint, au fond du tabernacle, au fond du temple, ce lieu où symboliquement Dieu résidait. Il était parmi son peuple, mais il était séparé par un voile. Seulement le souverain sacrificateur, seulement quelques minutes par année, pouvait, au nom du peuple, et puis par le moyen de tout un rituel très compliqué, le jour du grand pardon, entrer dans ce lieu pour faire le sacrifice pour le peuple. Quel changement révolutionnaire! On a aujourd'hui un libre accès au sanctuaire. Parfois, je me mets à la place de ces lévites qui travaillaient dans le temple, ou bien les prêtres qui travaillaient dans le temple plutôt, à l'époque de Jésus. Et au moment où Jésus a rendu l'esprit, ils ont vu le voile se déchirer en deux. Les gars, ils ne devaient pas y croire, quoi. Ils devaient complètement halluciner. Ce voile qui était là depuis plus d'un millénaire, presque deux millénaires, venait de s'ouvrir. Et l'accès à la présence de Dieu, l'accès au sanctuaire était libre. Le pardon est acquis une fois pour toutes à la croix. On passe au deuxième point. Jésus est le prêtre parfait. C'est pas tout, hein. Non seulement Jésus est le sacrifice parfait, ça c'est ce qu'on vient de voir, mais il est aussi le prêtre parfait. De nouveau, si vous relisez Lévitique chapitre 4 et 5, vous verrez que ce sont deux chapitres qui parlent du sacrifice, mais vous verrez que l'acteur principal dans tous ces sacrifices, bien sûr, il y a la personne qui a commis le péché qui est là, mais il y a surtout le prêtre qui a une place centrale. Le prêtre, c'est celui vraiment qui rend le sacrifice possible. Sans le prêtre, impossible d'offrir le sacrifice. C'est lui qui est l'intermédiaire entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Vous vous souvenez, hein, c'est lui qui est l'adaptateur, qui permet de faire la jonction, qui permet de faire le pont entre les deux. Si vous lisez l'Ancien Testament, d'une manière flagrante, on se rend compte que les prêtres de l'Ancien Testament ont échoué. On résume un tout petit peu le début du livre du Lévitique. J'ai lu un commentaire qui disait qu'on devait toujours lire l'Épître aux Hébreux en parallèle du livre du Lévitique. Donc vous pouvez lire ce livre si vous le désirez. En tout cas, si on résume un petit peu le début de ce livre du Lévitique, ça nous montre bien que les prêtres de l'Ancien Testament ont échoué. Vous regardez les cinq premiers chapitres du livre du Lévitique, présentent les différents sacrifices possibles, les holocaustes, l'offrande végétale, les sacrifices de communion, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices pour le péché, j'en passe, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Ensuite, on a les chapitres 6 et 7, qui sont comme une petite appendice, une petite annexe à l'attention des prêtres, qui leur expliquent avec un peu plus de détails comment doivent se passer ces sacrifices. Ensuite, on arrive au chapitre 8, on a une partie un peu plus historique avec la consécration des premiers prêtres du peuple d'Israël. Au chapitre 9, on a les premiers sacrifices qui sont offerts par ces premiers prêtres. Et chose incroyable, c'est là où je veux en venir, chapitre 10, juste après leur mise en place, leur entrée en fonction, juste après les premiers sacrifices, premier échec des prêtres. Deux prêtres, deux fils d'Aaron, font quelque chose de mal, quelque chose d'interdit. Et Dieu les arrête, il arrête leur vie à l'instant même. Ça nous montre quelque chose. Les prêtres de l'Ancien Testament ont fondamentalement échoué. Ensuite, la prêtrise a continué, mais on voit dès l'origine qu'il y a quelque chose qui ne suffit pas dans la prêtrise de l'Ancien Testament. On voit que les prêtres sont faillibles. Les prêtres de l'Ancien Testament ne sont pas cet adaptateur parfait qui permet de faire la jonction avec Dieu. Bien sûr, Dieu les a voulu, bien sûr. Dieu a voulu montrer quelque chose à son peuple en établissant ses prêtres dans l'Ancien Testament. La prêtrise dans l'Ancien Testament n'était pas quelque chose de fondamentalement mauvais, mais c'était quelque chose d'insuffisant. La religion ne suffit pas. Il faut plus qu'une religion. Jésus est ce grand prêtre. Jésus, lui, a traversé le voile. Comme j'ai dit, hein, le sanctuaire était totalement fermé, hermétiquement fermé. Et Jésus a traversé ce voile. Bien sûr, symboliquement, il a ouvert le voile, mais spirituellement, il a rendu ce chemin possible. Il a inauguré une route vivante au travers du voile, c'est-à-dire au travers de son propre corps. Jésus est ce grand prêtre. Il est le grand prêtre parfait. Le titre de notre série dans l'Épître aux Hébreux, c'est « Jésus plus que tout ». Jésus est plus que tout. Et je crois que ce passage en particulier est vraiment révélateur. Jésus est à la fois le sacrifice et le prêtre qui permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Il est tout. En dehors de lui, c'est impossible de s'approcher de Dieu. Il a tout fait. Et c'est en cela qu'il est plus qu'une religion. Il y a beaucoup d'hommes dans l'histoire qui ont inauguré des nouvelles religions, qui ont voulu montrer, inventer ou parfois imposer une voie, un chemin vers Dieu. Si vous lisez l'histoire des religions, vous verrez que c'est que ça. Hein. C'est des gens qui ont voulu inventer ce chemin. Mais Jésus fait quelque chose de fondamentalement différent. Lui, il ne fait pas que montrer le chemin. Jésus, lui, il est le chemin. Son propre corps est le chemin. Il est la voie d'accès à Dieu. Il est plus qu'une religion. Il est une route. Il est l'initiateur, en fait, d'une relation avec Dieu. Il est le créateur, si on veut bien, d'une relation, ou celui qui nous permet de retrouver une relation avec Dieu. Il est le sacrifice parfait, il est le prêtre parfait. Il est plus qu'une religion. Tout le christianisme, d'une certaine façon, se résume dans ces deux notions. Jésus-Christ se présente ici comme le sacrifice parfait, le prêtre parfait, et ça résume un petit peu tout ce que nous croyons en tant que chrétiens. Par conséquent, on pourrait tirer un nombre d'applications illimitées à partir de ces deux notions-là. Le seul problème, c'est que notre cerveau a du mal à gérer trop d'informations. Du coup, je vous propose juste quelques applications. Je pense que c'est important qu'on n'en reste pas juste à ce constat que Jésus est le sacrifice parfait et le prêtre parfait, mais qu'on se dise, mais qu'est-ce que ça doit changer pour moi aujourd'hui? Je crois que le texte nous le dit, en fait. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. La route est là. La route est inaugurée. La route traverse le voile. Elle rejoint Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Application. Approchons-nous donc. Avec quoi ? Quatre choses. Un cœur sincère. Une foi inébranlable. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. On peut marcher sur cette route. La voie est libre. Il n'y a rien à faire. Jésus a créé cette route. Alors allons-y. Mais allons-y avec un cœur sincère. Toute la Bible met l'accent sur cette question-là. Hein. Encore et encore, Dieu n'attend pas des actes de notre part. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était le cas. Hein. Dieu n'attend pas des actes de notre part, de la part de son peuple. Il attend des cœurs transformés. Il attend des cœurs qui lui appartiennent. Il attend des cœurs qui sont tout à lui. On ne peut pas prendre un petit Jésus dans sa poche comme un porte-bonheur ou un gris-gris et se dire « Bon, je vais quand même un petit peu adhérer à ce message de l'Évangile au cas où ce serait vrai. » C'est vraiment pas ça que Dieu attend. Tout notre être, tout notre cœur doit être orienté vers Jésus-Christ. On doit avoir un cœur sincère. Deuxième chose, allons-y avec une foi inébranlable. C'est la foi qui sauve. Hein. Là aussi, toute la Bible nous le montre encore et encore. le fait de se confier en Jésus, le fait de croire en lui, de croire qu'il a bel et bien inauguré cette route au travers du voile, par sa mort et par sa résurrection. On doit croire tout cela, parce que si on ne croit pas tout cela, on va pas entrer sur cette route. Si on n'y croit pas, on ne fera pas ce pas sur cette route. Attention, on ne doit pas essayer de créer une confiance ou une foi en nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer par nous-mêmes. C'est en fait en relisant et en se souvenant encore et encore que Jésus est ce prêtre et ce sacrifice parfait, que notre foi va grandir. C'est en se souvenant constamment de cela que notre foi va devenir de plus en plus forte. Plus on réalise cela, plus notre foi va être inébranlable. Troisièmement, allons-y sur cette route. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Notre péché est payé. C'est clair, notre péché est grave. On le voit dans le livre du Lévitique, comme on l'a vu. Hein. Mais notre péché est payé. C'est fait, une fois pour toutes. Et nous n'avons plus rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se relâcher. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Ça signifie simplement qu'on peut marcher en toute confiance parce que Jésus nous garantit le pardon. On est libre, totalement libre. Et cette liberté doit nous motiver profondément à obéir à Dieu. Finalement, dernier des quatre points, hein, allons-y sur cette route. Le cœur purifié d'une eau pure. C'est bizarre cette expression, non? Pourquoi tout d'un coup il y a cette histoire de cœur purifié d'une eau pure? Mais en fait, c'est le cas. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus, par sa mort. Si on place notre confiance en lui, nous devenons parfaitement saints par Jésus. Il faut être saint. Comme j'ai dit, hein, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Le péché et la sainteté de Dieu ne se mélangent pas. Il faut être parfaitement saint pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans le sanctuaire. Et c'est ce que Jésus a fait. Il nous a purifiés, il nous a lavés d'une eau pure. Être chrétien, c'est ça en fait. Être chrétien, c'est marcher sur la route que Jésus a inaugurée, dans la présence de Dieu. Rien de plus. Et c'est ça en fait. Être chrétien, c'est plus qu'une religion. C'est marcher sur cette route. C'est pas moins qu'une religion, c'est plus qu'une religion. C'est cette relation restaurée avec Dieu. Ça doit tout changer dans notre vie. Ça doit changer notre Église. Au début, vous vous souvenez, au début de cette prédication, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on doit changer? Et qu'est-ce qu'on a le droit de changer dans notre manière de vivre la vie chrétienne, individuellement, mais aussi en tant qu'Église? Je crois que ce texte, il nous aide à répondre à ces questions. Notre Église ne doit pas être un lieu où on transmet une religion. Ce n'est pas un endroit où on découvre un procédé qui nous permet de nous approcher de Dieu. On n'est pas là pour expliquer le code de conduite qui permet de s'approcher de Dieu. On est là pour transmettre et se souvenir de l'Évangile, ce message qui nous parle de cette route ouverte vers la présence de Dieu. Bien sûr, il y a un code de conduite chrétienne. Bien sûr, Dieu nous montre dans sa parole d'une manière claire qu'il y a des choses qui lui plaisent et des choses qui lui déplaisent. Et toute la vie, il y a beaucoup d'autres passages qui parlent de ça, toute la vie, nous devons progresser sur ce chemin de la sanctification. Nous devons rejeter les choses qui déplaisent à Dieu et faire les choses qui plaisent à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est au cœur de ce que nous voulons vivre. Ce processus de s'approcher de Dieu, c'est en fait pas ça qui est fondamental. Le moyen de nous approcher de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est cette route que Jésus a inaugurée, cette route que Jésus a ouverte. Ça doit changer notre manière de parler de l'Évangile. Être chrétien, d'un point de vue identitaire, ce n'est pas faire des choses, c'est marcher sur cette route, c'est traverser le voile. Bien sûr, en tant que chrétien, on fait beaucoup de choses. On fait des efforts, on fait tout un tas de choses pour plaire à Dieu. On devrait avoir une attitude probablement encore plus exemplaire que n'importe qui, parce que cette route est ouverte, parce qu'on marche sur cette route. Mais ce n'est pas ça qui nous définit en tant que chrétiens. Ce qui nous définit, c'est que nous marchons sur cette route, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ça signifie qu'on doit réfléchir à nos activités d'église. Hein. Quel est leur but et quel est leur contenu? Est-ce que nos activités promeuvent une religion Ou est-ce qu'elle nous montre cette route? Est-ce qu'elle nous aide à rester sur cette route? Est-ce qu'elle nous encourage à marcher sur cette route, à nous souvenir de la grâce? Est-ce que nos activités nous rappellent encore et encore l'Évangile et les implications de l'Évangile pour notre vie quotidienne? On est le premier dimanche du mois de juin aujourd'hui et je vous propose un petit défi pendant ce mois de juin. Réfléchissons, chacun pour nous-mêmes et même dans nos réunions, réfléchissons à notre vie d'église. Mettons-nous des objectifs pour l'année scolaire 2018-2019. J'aimerais nous encourager à avoir trois types d'activités dans la vie d'église, trois niveaux d'activités. Notre culte, on participe à ce culte les uns avec les autres, on s'encourage les uns les autres. Investissez-vous aussi dans un petit groupe, n'importe. L'église, dans notre église, on a beaucoup de petits groupes différents. Investissez-vous parce que ce sera le lieu où vous allez vraiment faire plus connaissance avec des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous permettre d'avancer. Troisième niveau, investissez-vous auprès d'une ou deux personnes. Développez une relation privilégiée, une relation plus intime avec une ou deux personnes de l'église. Prenez ce temps pour marcher sur cette route ensemble. Ces trois niveaux, ils vont nous aider non pas à vivre une religion, mais à marcher en tant qu'Église, à travers ce voile, sur cette route que Jésus a inaugurée, cette route dans la présence de Dieu. Jésus est plus qu'une religion. Souvenons-nous de ça. Jésus est le sacrifice parfait. Jésus est le prêtre parfait. Jésus inaugure cette route. Alors marchons-y, marchons sur cette route, dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier. Tu es tellement bon avec nous. On veut te remercier pour cette nouvelle alliance que tu as inaugurée. On s'en est souvenu tout à l'heure en prenant le repas du Seigneur par le sang de Jésus. On veut te remercier parce que Jésus est ce prêtre parfait, il est ce sacrifice parfait, il a tout accompli. Il est plus qu'une religion. Il est l'inaugurateur de cette route, l'inaugurateur de cette relation restaurée, retrouvée avec toi. Merci parce que c'est toi qui as fait ce miracle. Aide-nous à vivre en conséquence de cela. Aide-nous à avancer sur cette route avec ce cœur sincère, avec cette foi inébranlable, avec ce cœur purifié d'une mauvaise conscience et ce corps lavé d'une eau pure. Aide-nous à vivre cette relation avec toi, à nous détourner de toute forme de religion, mais à désirer encore et encore vivre par ta grâce. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.